Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est tout pile 9h40 sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'Instant M.
C'est énorme ce qui s'est passé les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
C'est devenu un marqueur de la télé, une émission culte. Pascal Le Grand Frère, né il y a 10 ans sur TF1, tout le monde le connaît, même ceux qui n'ont jamais vu ses émissions. Le crâne ras, le blouson de cuir, le verbe haut, la poigne très musclée. Lorsqu'il s'agit de redresser des ados en rupture, dont les parents désespérés font en dernier recours appel à la télé. L'autorité et les coups, la méthode forte de cet ancien éducateur, sportif de haut niveau, ont fait couler de l'encre, décrié et souvent parodié. La télé change, la société change, pas lui. Pourquoi ?
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Pascal Sautens.
Bonjour Sonia.
Parce que vous avez un nom de famille. Donc.
Exactement, exactement.
Voilà, 2006 démarrage sur TF1, Pascal oui. Le Grand Frère, c'était en deuxième partie de soirée, énorme succès à l'époque. Ensuite, vous quittez TF1 au bout de 6 ans.
6 ans, ça, oui.
C'est ça, vous passez sur Énergie 12, oui. SOS, Ma Famille a besoin d'aide. TF1 à l'époque riposte avec un autre grand frère qui s'appelait Pascal aussi. C'était totalement surréaliste. Bon, eux, ils ont fait un flop total. Vous l'aviez vécu comment, cet autre Pascal, cette espèce d'avatar qui prenait votre place.
Au départ, un peu mal, puisque effectivement, je me voyais pas être remplacé, en plus par quelqu'un qui portait le même prénom que moi.
C'est ça, c'est assez curieux.
Alors voilà, même attitude, même style, blouson de cuir, etc. J'ai dit, bon, bah, c'est un copier-coller. Et on m'a effectivement comparé à ce Pascal, donc, que j'ai rencontré d'ailleurs, qui est un garçon charmant. Et oui, j'avais réagi sur une interview en disant, vous ne respectez pas mon public. C'était à l'époque, j'étais un peu en colère. Donc voilà, je mâche pas mes mots, hein, j'ai dit les choses. Et puis, bah, puis ça s'est calmé doucement. Et puis voilà, puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin.
Voilà, votre producteur Julien Courbet a récupéré la marque. Vous êtes donc de retour sur C8 ce soir avec un peu moins d'émissions et une façon différente de les tourner, beaucoup moins de voix off.
Enfin.
Tellement rare à la télé qu'on mette un peu moins de.
On m'écoute enfin, ça y est. Au bout de 10 ans, je commence à avoir la parole à mon tour.
Le téléspectateur est un peu moins débile, il peut comprendre tout seul.
C'est ce ça,
qui se passe,
parce que j'ai cette impression, effectivement, lorsque je vois l'émission moi-même et que je découvre, enfin, j'entends cette voix off qui, moi, m'irrite. Donc je me dis, moins de voix off, s'il vous plaît. Voilà, laissez-moi à parler, parce que j'explique déjà les choses, et je pense bien le faire. Donc
et un peu plus de Vivaldi, ce qui est là aussi assez surprenant.
C'est sympa, non c'est, la musique classique.
C'est sympa.
Ça apaise les mœurs, c'est paraît-il.
Bien, bien, bien. Allez, un petit journal des médias, c'est parti. Immense photographe de mode que Terry Richardson, des clichés éminemment chauds, sexe et trash qui ont fait le tour du monde. Mais les plaintes pour agression sexuelle de mannequins qu'il a shooté tout au long de sa carrière s'accumulent depuis des années. Dénoncé au grand jour, il a même fait l'objet d'une pétition il y a déjà 5 ans. Il aura néanmoins fallu l'affaire Weinstein aux États-Unis pour qu'un grand groupe de presse se décide à agir. Condé Nast, c'est-à-dire les magazines Vogue, Glamour, GQ et Vanity Fair, cesse définitivement de publier ses photos. Licencié au printemps dernier, Bill O'Reilly, qui est le présentateur vedette de la chaîne Fox aux États-Unis. La presse avait dévoilé, vous vous en souvenez, une série d'accords financiers visant à faire taire des femmes harcelées par ce célèbre journaliste. Nouvelle révélation dans le New York Times cette semaine. Et hier, Megyn Kelly, ancienne journaliste de Fox News, aujourd'hui sur NBC, a raconté sur sa nouvelle antenne que Fox News savait tout. Que Fox News protégeait délibérément son présentateur, que Fox News n'a rien voulu entendre des plaintes et des alertes lancées en interne.
Mais cela doit s'arrêter. Les abus faits aux femmes, les humiliations, les intimidations, les représailles, le silence après les faits, tout cela doit s'arrêter.
Pascal Sautens, j'en profite pour vous faire commenter l'actu. Depuis 10 ans, c'est quelque chose qui revient sans cesse dans vos émissions. C'est pas systématique, mais c'est quand même assez récurrent. Comment un ado doit parler à sa mère et au-delà, comment un ado doit traiter sa femme? Comment un jeune garçon doit traiter les femmes en général?
Eh bien, c'est de les traiter avec respect déjà, dans un premier temps. Et ce mot-là, respect, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de signification aujourd'hui. C'est ce qu'on inculque, en tout cas, moi, ce que mes parents m'ont inculqué quand j'étais enfant. Le merci, le bonjour, le au revoir, se lever dans un bus pour les c'est la place à une mamie, une femme enceinte. Voilà, ce sont des choses qui pour moi sont naturelles. Et aujourd'hui, c'est plus d'actualité. J'ai l'impression que la société va très très vite. Donc on a Internet. Moi, j'avais pas de téléphone portable à 16 ans. Hein, ça n'existait pas.
Vous en avez 48, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va encore pour mon âge.
C'est ça. Mais c'était ce regard que porteront dès très jeunes les garçons sur les filles et les fils sur leur mère. C'est quelque chose que vous avez soulevé souvent dans Pascal le Grand Frère.
Oui. Effectivement, j'arrivais pas à comprendre les premières émissions. Je me dis, mais comment on peut insulter sa maman et comment on peut la bousculer? Je n'y croyais pas du tout. Hein. Je vous dis franchement, à l'époque, au début de l'émission 2006, il y avait mon incroyable fiancé avec Ornac, qui maintenant cartonne dans Camping Paradise. Je me suis dit, mais non, c'est truqué, il y a des caméras partout. Donc quand je suis arrivé dans la première famille, ma première question c'était, bon, c'est quoi le scénario? On m'a dit, mais il n'y a pas de scénario, parce qu'à ce niveau-là, on est dans la vraie vie, avec une vraie famille. Et ça, c'est la première fois que j'en parle. Hein. Et au bout de 3 jours, je m'aperçois qu'effectivement, je suis dans une vraie famille, avec une vraie problématique, avec un enfant qui insulte sa maman, qui la bouscule. Et là, je me dis, waouh, ah ouais, je découvre quelque chose que je ne connaissais pas.
Intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que vous avez fait de la télé parce que TF1 est venu vous chercher.
Oui, c'est ça.
On a beaucoup reproché à votre émission d'être scénarisée.
Exactement.
En réalité. Et vous, c'était pas ça que vous veniez chercher à la télé. C'était même pas la télé du tout que vous veniez chercher.
Non, du tout. Parce que moi, je fais mon métier à la télé. Je me sers pas de la télé pour faire un métier. Et ce qui est assez étonnant, c'est que lorsque je découvre ce milieu télévisuel, je suis chez les gens tous les soirs à une époque, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe, quoi, dans cette société? Pourquoi les ados aujourd'hui sont comme ça? Alors certes, on a tous nos problèmes, hein, oui, moi aussi, mon papa était difficile. Est-ce que pour autant ça a fait quelqu'un de moi d'odieux auprès de ma maman? Non, j'ai toujours respecté mes parents, même si mon père était vraiment, vraiment très dur, hein, parce qu'il y avait beaucoup de violence chez moi. Je l'ai écrit dans un bouquin qui est paru il y a quelques années. Et effectivement, mes faiblesses, j'en ai fait mes forces. J'en ai fait ma force, et aujourd'hui, je suis ce que je suis, et je le fais avec le cœur. Et ce boulot-là, je l'ai depuis que j'ai 15 ans, en fait. Et je m'aperçois qu'avec le recul, j'ai toujours été comme ça, j'aimais pas l'injustice, et ce qu'on appelle les victimes, donc des collèges, des gens qui sont un petit peu malmenés, j'ai toujours été là pour les défendre.
Alors ça m'intéresse parce que, évidemment, on va revenir sur vos méthodes, je l'ai dit, décrier, ouais. Parodier, etc. Mais en même temps, elle pose plein de questions, donc allons-y. Vous avez du coup fait parfois appel à des femmes pour reprendre le dessus sur de jeunes garçons qui, comme vous dites, parlent mal à leur mère.
Exactement.
Ça donne ça, par exemple, comme séquence, une séquence plus ancienne, pas du tout de celle qu'on verra ce soir.
Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, c'est lui qui va être dans la position de la victime. Son calvaire a un nom, Christelle, et un palmarès éloquent. Christelle a été championne du monde de karaté par équipe. Alors donner une bonne leçon à ce grand dadais est une perspective qui l'enchante plutôt.
Pour moi, la relation homme-femme, elle doit être rétablie. Allez, on y va. Yo. Ça, c'est pour tout ce que tu fais à ta mère. Là !
C'est dit dans la voix off, Pascal Sautens, c'est dit que le gamin qui martyrise sa mère, d'un seul coup, il va se retrouver, lui, en position de victime. C'est nécessaire qu'un môme se retrouve, lui, en position de victime pour comprendre la douleur des coups et la douleur de ce que ça fait de s'en prendre plein la gueule? Parce que c'est quand même la seule émission de télé où des mômes s'en prennent plein la gueule, au sens littéral du terme. Ils se font péter la gueule.
Ça devient nécessaire parce qu'ils ne comprennent pas. On a beau leur expliquer que ce geste-là est inconcevable. La femme, on doit la respecter dans tout. C'est elle qui met au monde les enfants. Si on est là, c'est grâce à la femme. En fait, je me rends compte que la femme a plein de sagesse et des choses que nous, les hommes, on ne comprend pas. Je dis souvent, je fais les gars, quand je suis avec des potes, je leur dis, écoutez, montrez-moi votre côté femme. Ils disent, mais non, mais nous, on est des mecs. Je dis, non, mais on a tous un côté femme chez soi. Moi, j'ai le mien. J'ai montrez-moi votre tendresse, montrez-moi votre sensibilité. Pourquoi vous cachez ça? Jouez pas les machos. Et ce garçon, effectivement, je le mets face à une femme, parce que sa maman, malheureusement, est en plus handicapée. Et il se permet d'abuser de sa force. Et pourtant, quand on voit le gabarit de ce garçon, je me dis, mais comment il peut faire pour oser ce genre de choses? Donc je mets face à une femme, effectivement, qui, elle, sait se défendre, qui en plus est karatéka, donc qui maîtrise les gestes, les mouvements, les coups, parce qu'on n'est pas là pour leur faire mal non plus, mais pour leur faire comprendre qu'une femme aussi sait se défendre. Donc voilà, donc méfions-nous des femmes, en fait, aujourd'hui.
Ouais, enfin, vous n'êtes pas là pour lui faire mal, en même temps, il se prend une méga torgnole.
Ah, il s'est pris, ouais, qu'à un moment donné, j'ai demandé à Christelle d'y aller un petit peu moins fort, parce que le but, c'est pas non plus de les humilier par des coups. Mais c'est ce qu'il fait à sa mère quand même.
Justement, je vous fais écouter une séquence de télé qui, moi, m'avait vraiment ému, sincèrement ému, m'avait fait réfléchir. On était sur le plateau de Laurent Ruquier et Yann Moix, son chroniqueur, qui est par ailleurs écrivain, faisait face à Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, lui, il racontait les coups, les torgnoles qu'il a pris gamin et il disait, c'est l'éducation que j'ai reçue et sincèrement, ça m'a pas fait de mal, ça m'a plutôt cadré. Voilà la réponse de Yann Moix.
Un enfant qui reçoit des coups de martinet.
Ce que j'ai reçu.
C'est l'humiliation infligée à un être qui ne peut pas se défendre. L'humiliation, le nombre d'enfants qui se réfugient ensuite dans la dépression, dans la drogue, dans la délinquance, et qui sont abîmés à vie parce qu'ils ont reçu des fessées. Moi, vous savez pourquoi je suis malade, comme vous le dites? Parce que je les ai reçus, ces coups dont vous parlez, et que vous amalgamez. J'ai fait du rugby, et dans les mêlées, je ne sentais pas les coups, Patrick. Par contre, quand mon père me fracassait la gueule, je les sentais, et ce n'était pas les mêmes coups.
Moi, j'avais été bouleversée quand j'avais entendu ça. C'est quoi la différence d'une éducation donnée à un enfant avec des coups et des punitions, et ce que vous faites?
On n'éduque pas un enfant avec des coups. On éduque un enfant par des actes. Donc nous, l'adulte, on se doit effectivement d'être maître de tout ça. Mais parfois, certains ne maîtrisent pas effectivement cette espèce d'impatience qu'on pourrait avoir auprès d'un enfant. Et effectivement, un enfant qui pleure toute la journée, je peux comprendre que ça peut être agaçant. Il y a une loi anti-fessée qui est passée, qui a été votée.
Alors, le Conseil constitutionnel a fini par censurer le décret, donc elle n'est pas passée. Bon. Je me suis même demandé si elle était passée. Je pense que votre émission aurait été interdite,
c'est ce que
j'ai entendu,
non ? Ouais, c'est ça. Mais moi, je mets pas de fessée aux jeunes.
Alors, en même temps, régulièrement, ils s'en prennent une bonne quand même.
Voilà, ça c'est fini maintenant. Donc, il n'y aura plus d'intervenant. Je ferai tout moi-même. Et ce que je faisais très bien auparavant. Et c'est vrai que sur Énergie 12, on avait mis des intervenants et beaucoup trop à mon sens. Et je perdais un petit peu le fil de l'essence de cette émission et de ce que je faisais moi comme travail dans l'explication, dans l'échange. Et c'est parce qu'on met des coups.
Mais à quoi ça sert de mettre un coup, justement?
Qu'est-ce qu'on entend par mettre un coup? C'est-à-dire frapper quelqu'un? À quoi ça sert? Dans ce cas précis, c'était lui faire comprendre que ça fait mal. Donc quand on frappe les gens et qu'on ne reçoit aucun coup, comment on peut comprendre effectivement que ce coup peut faire mal?
En effet, mais peut-être que c'est mon regard à moi de jeune fille extrêmement bourgeoise et protégée.
Mais je suis contre ça, moi.
C'est-à-dire?
Je suis contre la violence, évidemment, quelle qu'elle soit.
C'est la violence pour endiguer la violence?
C'est pas la violence pour endiguer la violence, c'est utiliser des méthodes plus fermes. Et je pense qu'on peut être ferme dans le regard, on peut être ferme dans les paroles. On n'est pas obligé d'être ferme avec les poings, justement. Et quand je parle de fermeté, bah justement, le poing, le d'être fermé, il faut l'ouvrir. Et ouvrir sa main, c'est aller vers quelqu'un. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Quand on ferme le poing, on refuse cette discussion et on refuse l'entraide, entre guillemets. Donc moi, j'ouvre la main plutôt.
Je fais écouter le début de l'émission où vous vous présentez.
Vous me connaissez depuis 10 ans. Des milliers d'ados me considèrent comme leur grand frère. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'eux et moi, on est un peu pareil. J'ai grandi dans une cité, à Creil, au nord de Paris. Ma mère était femme de ménage, mon père ouvrier. Ils ne savaient pas dire « je t'aime », mais n'avaient aucun mal à me traiter d'incapable. Alors, je me suis promis de le faire changer d'avis. Yeah. Toute ma rage, je l'ai laissée sur les rings et les tatamis.
Pascal, le grand frère.
Pascal, le grand frère invité de France Inter, vous vous rendez toujours quasiment dans le même type de famille, Pascal Sautens. C'est-à-dire très rarement ou jamais chez des gens très éduqués, diplômés, rarement chez les riches, même chez les très riches. Et pourtant, chez les riches et chez les très riches, il y a aussi des gamins en rupture.
Absolument.
Il y a aussi des gamins hyper violents.
Exactement.
Dont on ne sait plus quoi faire. Et voilà, pourquoi?
Alors, sachez que je rencontre au quotidien des gens qui ont de l'argent, qui ont une bonne situation et qui souhaitent mes services et pourraient me payer très très cher pour que je puisse venir les aider. Sauf que moi, je le fais à travers la télévision parce que le fait de se voir, c'est un vrai électrochoc et c'est une vraie méthode de travail qui est intéressante aujourd'hui. Quand on se regarde, quand on s'entend, on se dit, mais non, je parle pas comme ça, c'est pas possible, ce n'est pas moi. Et j'avais eu un témoin qui m'avait dit, mais non, c'est pas moi, vous avez trouvé un jumeau, quelqu'un qui me ressemble, mais c'est pas moi, parce que la personne que je vois là, ce n'est pas moi. Et la catégorie de personnes, je dirais que on est là pour aider les gens. Qu'on soit riche ou pas, peu importe, le but c'est d'aider la personne. On aide des êtres humains, on aide des personnes qui sont en difficulté, qui aujourd'hui n'ont plus grand choix. Ils ont utilisé toutes les choses possibles et inimaginables de notre société.
Mais au final, quelle vision elle donne de notre société, votre émission de télé? C'est-à-dire que vous allez toujours dans une famille très déshéritée, généralement en province, etc. Comme si il y avait les psys pour les enfants de bourgeois, hein, et puis le service militaire pour les enfants de prolo. En gros, c'est ça que ça raconte.
Ouais, donc je suis un peu d'accord avec vous, mais dans un sens, ces gens-là ne veulent pas passer à la télé, en fait. Je pense qu'ils ont honte de montrer leur situation parce qu'ils ont justement une situation.
C'est ça. C'est-à-dire que les bourgeois qui font appel à vous, c'est d'accord, mais...
Mais sans caméra.
Sans caméra.
Voilà, je le dis haut et fort, et ça a souvent été le cas. Donc bah, pour certains, effectivement, je leur donne un coup de main, et pour d'autres, j'avais pas le temps, et à un moment donné, je préfère dire non que mal faire les choses.
Il y a eu une parodie de vous sur Internet il y a quelques années, c'était Mohamed, le grand frère. J'adore. Du bled, ambiance africaine et tout. tout ça. N'empêche qu'on vous voit jamais dans des familles africaines, maghrébines, ou très, très rarement. C'est-à-dire, en fait, on vous voit jamais dans les cités dont vous venez vous-même, c'est-à-dire au cœur du réacteur. Pourquoi?
Et pourtant, je vous trompez, parce qu'on en a fait.
Ouais, très peu, en fait.
Très peu. Alors, pourquoi très peu? Parce qu'effectivement, pour les enfants maghrébins ou africains, etc., il y a des valeurs concernant les parents. On dit, enfin, chez nous, hein, dans les quartiers, on dit que le paradis se trouve sous les pieds de la maman. C'est-à-dire que la maman est intouchable. Donc, effectivement, ces gens-là, quand ils sont chez eux, ils sont respectueux des parents. Par contre, quand ils sont à l'extérieur, c'est la jungle. Donc, moi, je suis pas là pour régler un problème de quartier, donc, où les gens sont dehors, où c'est un peu l'anarchie. Moi, je suis là vraiment pour régler un problème familial. Donc, quand il n'y a pas de problème de famille, en tout cas, quelle que soit la nationalité, j'y vais pas, tout simplement.
Alors, ce soir, vous allez vous occuper de deux jumeaux qui sont totalement infernaux. Ils craquent, comme régulièrement, puisque c'est un des invariants de cette émission. Ils craquent à la fin d'un combat.
Tu baisses les bras, regarde.
Non, mais à mon avis, je sais pourquoi je suis comme ça.
Ah, dis-moi. Allez, pourquoi t'es comme ça?
Le manque de mon père aussi.
Oh là les gars. Voilà où elle est votre haine. Votre papa. Pensez-y. Moi aussi, j'ai perdu mon père, les mecs. Hein? Je suis comme vous.
Donc voilà, évidemment, hein, c'est toujours à ça que vous cherchez à aboutir, hein, une sorte de libération, d'expulsion de la violence, c'est pour ça. Libérer derrière.
J'utilise le sport pour ça, en fait.
La souffrance.
Ouais. J'utilise le sport, c'est un très bon exutoire. Moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à remonter la pente dans des moments difficiles. Ça m'a aidé à savoir qui j'étais, ce dont j'étais capable aussi de faire. Et ça m'a permis d'aller participer à des championnats, d'être en équipe de France, d'avoir un niveau
sportif. Vous aviez quel âge quand votre père est mort?
J'en ai 48, j'avais 44 ans.
Vous aviez 44
ans.
Ouais. Donc quand vous dites « on a vécu la même chose les mecs », vous n'avez pas perdu votre père enfant?
Non, j'ai eu la chance de grandir avec lui, mais est-ce que ça fait une chance par rapport à ce que j'ai vécu? J'en sais foutre rien, en fait. Le truc, c'est mieux, c'est que moi, il m'a malgré tout inculqué de bonnes valeurs, même s'il a été dur. Alors oui, des coups, j'en ai pris et j'en suis pas mort pour autant. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne crois pas. Pour moi, c'était injuste, en tout cas, je ne méritais pas. Mais voilà, donc il avait sa vision et en fait, lorsque j'ai découvert son passé, parce que c'est quelqu'un qui parlait peu, qui n'expliquait pas du tout un petit peu ce qu'il avait vécu, et au fil du temps, en grandissant, en devenant adulte, j'ai appris certaines choses et je me suis dit, je comprends. Alors, je n'excuse pas, mais je comprends. Donc, je comprends ses gestes, je comprends pourquoi il était comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, il est plus là, il me manque. C'est assez étonnant parce que c'est quelqu'un que je détestais étant gamin, que je haïssais même. Hein. Et aujourd'hui, il me manque. Donc, je me dis, c'est que j'ai évolué et que je vois autre chose de lui que son côté violent, son côté dur, son côté méchant.
Alors, il y a quelque chose, évidemment, de toujours très émouvant de voir un ado craquer et dire, au final, c'est mon père qui est mort, c'est mon père qui me manque, etc. Et en même temps, là aussi, de totalement illusoire. Est-ce que ça va régler les choses? Est-ce que ça va remettre un môme dans le droit chemin? L'idée n'est pas évidemment d'être dans le droit chemin, tout le monde s'en fout, l'idée est qu'un môme aille mieux,
oui,
tout simplement.
Ça, bien sûr. L'idée, en fait, c'est qu'il accepte cette douleur. Cette douleur, lui, il la transforme en violence par rapport à sa maman. Alors, de plus, il a été maltraité par des jeunes filles. Donc, on parlait de la femme tout à l'heure, donc là, c'était l'inverse. Donc, c'est lui qui s'est fait maltraiter par les femmes, justement. Il avait une espèce de pseudo-vengeance de la femme où il malmenait, effectivement, sa sœur, sa maman, sa copine, à cause de l'expérience qu'il a vécue par amour. Par amour, il ne disait rien. Et effectivement, cette douleur-là, cette souffrance du décès, il ne la comprenait pas. Et surtout, c'est que quand on dit à quelqu'un, il faut faire le deuil. Oui, mais c'est quoi faire le deuil, en fait, au final? Et personne n'explique. Faire le deuil, est-ce que c'est oublier la personne? Et en fait, non. C'est ne jamais l'oublier, mais c'est surtout se souvenir de ses meilleurs moments.
Ce qui serait bien de ces jours, c'est qu'avec votre caméra, vous retourniez dans ces familles.
C'est
voir
prévu.
Finalement. C'est prévu?
Ouais, c'est prévu. J'espère qu'on fera même
pour
carrément une émission pour ces 8. Ouais, je voudrais qu'on fasse un plateau. Carrément, je vais loin.
Donc, parce qu'on sort de là très dubitatif, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est resté quand les caméras
exactement.
Sont parties? Alors, vous allez faire ça cette année sur ces 8?
J'ai envie de le faire. Maintenant, est-ce qu'on va me suivre? Est-ce qu'on va m'écouter? Parce que c'est un budget aussi, hein, mine de rien. Donc, il faut rappeler les familles. Je voudrais bien qu'on fasse un tour de table avec elle et qu'on fasse un débat en public et qu'on explique aux gens pourquoi ils ont fait cette émission, est-ce qu'ils seraient prêts à la refaire et ce qu'ils sont devenus.
Merci beaucoup Pascal Sautin. Pascal le grand frère est de retour ce soir sur C8 après Hanouna, donc on ne sait jamais très bien à quelle heure. Bonjour Ali Rebbehi.
Bonjour Sonia.
Des maths au quotidien et puis
et
quoi
oui,
encore?
À quoi servent les maths dans notre vie quotidienne? C'est le thème de Grand Bien Vous Fasse ce matin, 01 45 24 7000.